saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous.
1, 2, 3, 4.
On ne connaît pas les artistes qui viennent à nos micros, on ne sait d'eux que ce que la scène du théâtre nous renvoie. On les voit dans un rôle, puis un autre, puis un suivant encore. Et quelque chose s'impose peu à peu qui nous semble être leur vérité. Cela tient à leur silhouette, leur timbre de voix, leur présence, une singularité qui leur colle à la peau. En regardant sur les plateaux théâtre comme sur les écrans de cinéma où il apparaît de plus en plus souvent le comédien Grégory Gadebois, une certitude s'est faufilée jusqu'à notre conscience. Cet acteur aurait-il fait de la délicatesse la corde sensible de son art? De la Comédie française qu'il a quittée en 2012 au théâtre parisien privé Le Petit Saint-Martin, où il joue actuellement dans la Musica deuxième de Marguerite Duras, du film Tony et Angèle à la série Les Revenants, Grégory Gadebois et la délicatesse incarnée. Nous ouvrons donc avec lui et à sa lettre D comme délicatesse, notre encyclopédie en mouvement du théâtre qui se déplacera dans ces dernières minutes jusqu'à la scène nationale de Dieppe. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h, bienvenue.
Rien n'est jamais acquis à l'homme ni sa force, ni sa faiblesse, ni son cœur. Et quand il croit ouvrir ses bras, son ombre et celle d'une croix. Et quand il veut serrer son bonheur, il le broie. Sa vie est un étrange et douloureux divorce. Il n'y a pas d'amour heureux.
Sa vie, elle ressemble à ces soldats sans armes avait habillé pour un autre destin. À quoi peut leur servir de se lever au matin? Veux qu'on retrouve au soir des armées incertaines. Dites ces mots, ma vie, et retenez vos larmes. Il n'y a pas d'amour heureux.
Mon bel amour, mon cher amour.
Bonjour Grégory Gadebois.
Bonjour.
Est-ce que ça vous arrive de retenir vos larmes à la demande d'une femme?
Ah, je ne m'étais jamais posé... Non.
Vous osez pleurer? Vous savez pleurer?
Non, je n'ai pas la larme facile, moi. Ah. Je n'ai pas le souvenir d'avoir... La dernière fois que j'ai pleuré, je crois que c'était... il y a très longtemps, oui.
Ah, alors les histoires d'amour ne vous font pas pleurer?
Non.
Donc vous êtes heureux en amour?
Oui, déjà, oui.
Eh ben voilà.
Voilà, oui. Mmh. Ça fait une dizaine d'années, presque, bientôt, que j'ai plus de soucis de ce côté-là.
Est-ce que vous devez aux femmes la délicatesse que je vous attribue, et je pense que je ne me trompe pas, et qu'on voit chez vous, sur les scènes de théâtre, Grégory Gadebois?
Alors, c'est très gentil, mais c'est marrant, parce que si on m'avait demandé de me résumer en un mot, j'aurais tout dit sauf délicatesse, mais je suis d'accord, oui. Certainement qu'on le doit aux femmes. Je pense qu'on doit beaucoup plus qu'on ne pense aux femmes, mais...
Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, à la place du mot délicatesse? Quel est le mot qui serait venu si je vous avais demandé de dire ou de vous définir?
Ben, j'aurais pas trouvé grand-chose. C'est dur de parler de soi, de se définir. Moi, j'essaye de me faufiler comme ça, à partir des textes, de trouver ce qu'il faut faire, mais... Mais délicatesse, ça me va très bien, hein. Je suis content.
Qu'est-ce que vous entendez, vous, dans ce mot délicatesse? Vous comprenez ce que moi je peux y mettre, par exemple?
Ben non.
Puisque le mot vous surprend.
Oui, parce que je vais toujours au plus... comme je fais 130 kilos et que je me dis délicatesse, c'est pas le mot qui me vient, mais j'aime assez ça. Moi, dans la vie, j'aime bien la délicatesse. J'aime bien les gens qui sont délicats avec les autres. J'aime bien qu'on soit... J'aime bien ça, oui. Il me plaît assez, ce mot. Donc, au fond, je comprends un peu.
Mais quand vous dites c'est difficile de parler de soi, si je vous demande de parler du comédien que vous êtes, c'est la même chose que de parler de vous, Grégory Gadebois, parler du comédien?
Ben je crois.
Oui.
Parce que c'est des métiers qui sont quand même, je crois, je trouve, assez prenants. Quand on joue un personnage, on néglige un peu le métier, on a tort, je crois. Parce que ce que les gens font dans la vie, c'est très important. Sans qu'ils le sachent, mais ça leur donne un point de vue, je crois. Je dis toujours en rigolant, un comptable regarde le monde avec des yeux de comptable. Et nous, ils sont beaucoup plus vastes. Je veux dire, on peut pas dissocier l'humain de l'acteur, je crois, moi, pour moi. Puis d'ailleurs, quand j'aime bien quelqu'un, j'aime bien l'acteur qu'il est, et inversement.
Comédien qui regarde le monde avec des yeux de comédien, ça voit quoi de la réalité qui l'entoure?
Eh ben, je sais pas si c'est un... Mais j'étais plus heureux avant. Je voyais moins de choses. Je me posais moins de questions, je crois.
Donc vous avez été gagné par le doute et la lucidité en devenant acteur de théâtre?
Ouais, je crois que la lucidité, c'est tout sauf... Enfin, oui, je crois que si on regarde comment les choses fonctionnent, on peut pas être... Moi, j'arrive pas à être optimiste. Ça veut pas dire que je suis pas heureux, mais...
On peut être pessimiste et heureux.
Oui.
C'est la phrase de Gramsci, il faut toujours allier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté, finalement.
C'est vrai que l'optimisme, c'est une... il y a quelque chose de... Il faut un peu se battre pour pouvoir être optimiste. Pour que ça aille mieux, je crois. J'aime bien, oui.
Vous êtes quelqu'un de mélancolique
Ah, je crois. J'aime bien le mot, alors j'aime bien me dire que je suis mélancolique. Mais je crois que j'ai eu une discussion avec un ami et je crois que je suis mélancolique, ouais.
Il y a une de vos complices de jeu qui, elle aussi, parle de sa mélancolie qui est là, avec laquelle elle fait, avec laquelle elle agit, avec laquelle elle s'endort et se réveille. C'est la comédienne Clotilde M.
Je crois que j'entretiens avec la mélancolie, ouais, un rapport assez familier. Mais j'ai appris à la reconnaître et à l'identifier, à la différencier d'autres maladies de l'âme plus graves. Donc, la mélancolie, c'est comme une sœur que j'ai appris à connaître sur le tard et qui m'accompagne. Je la différencie surtout de la dépression ou de la blancheur même. J'ai trouvé ce concept-là de la blancheur dans un livre de David Le Breton super qui s'appelle La disparition de soi. En fait, c'est quand on veut se mettre en vacances de nous-mêmes et qu'on se fatigue un petit peu nous-mêmes et qu'on veut s'extraire ou s'abstraire du monde. Et c'est un phénomène assez... ça peut aller très loin, la blancheur. Ça peut être... Par exemple, le sommeil, j'avais une faculté à sombrer dans le sommeil pour m'absenter et éviter des conflits. Comme ça, je pouvais m'endormir très facilement. Je sais pas, j'ai des fiancés comme ça avec qui si c'était compliqué, je m'endormais. Et j'ai lu dans ce livre de David Le Breton que c'était une façon de s'absenter, quoi, de partir. Et ça peut être assez effrayant quand même. Mais en tout cas, la mélancolie, c'est quelque chose qui me donne le sentiment d'exister plus fort et qui intensifie, qui est une intensification de l'existence et qui est donc à l'inverse de cette chose de blancheur.
Voilà cette idée de blancheur et d'abstraction que j'aime bien, qu'elle a retenue de l'essayiste David Le Breton, Clotilde M. Vous, quand vous avez besoin de vous abstraire, vous faites quoi, Grégory Gadebois? Vous partez faire un tour en moto?
Oui, et puis aussi, sinon, beaucoup plus simplement, je débranche, je sais pas, quelque chose. Je peux être assez absent en étant là. J'ai un monde intérieur un petit peu très... Mais tout ça, on le comprend au fur et à mesure, en grandissant. Mais j'ai passé 3 ans au conservatoire, mais j'étais assis sur le banc, à l'entrée. Et c'était une espèce... Enfin, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, ce que vous me dites. C'était de maintenir de m'absenter. Mais en étant là, au cas où il y a quelque chose qui m'intéresse, au cas où... Et puis oui, sinon, un tour en moto.
Au fond, vous êtes un contemplatif?
Beaucoup, oui. Je crois. Il y a quelqu'un un jour qui m'avait dit un professeur, Monsieur Joanneau.
Joël Joanneau?
Oui.
Auteur de théâtre également?
Oui. Mais il était professeur au conservatoire. Moi, je le regardais passer. C'était quelqu'un de... Et un jour, il m'avait dit, j'ai cru qu'il se moquait de moi. Puis après, il m'a dit, non, c'est très sérieux. Il m'a dit, c'est bien, Grégory, tu sais prendre le temps de l'ennui. Et ça m'a fait du bien quand il m'a dit ça, parce que je me suis dit non.
Alors, puisque vous parlez de prendre le temps, je voudrais vous faire entendre une autre voix dans cette émission, Grégory Gadebois. Mmh. C'est celle de votre metteur en scène, Jacques Weber. C'est lui qui vous dirige, ainsi que votre partenaire magnifique qui s'appelle Stéphane Caillard, qui est une femme. Mmh. Dans ce texte de Marguerite Duras, La Musica deuxième, qu'on peut voir au Petit Saint-Martin, je vous propose d'écouter Jacques Weber.
Il y a une chose qu'a dit un jour Ariane Nouchkine, qui m'est restée dans l'oreille, c'est parce que nous sommes en retard qu'il faut prendre son temps. Et de toute façon, on est toujours en retard de quelque chose, je crois. Et puis, il y a aussi, je pense que un jour, mon maître, et c'est vraiment mon maître, Peter Stein, m'a dit, alors, tu peux être formidable et tout, bidule, tu n'as qu'un seul défaut, l'impatience. Et je pense que l'impatience, c'est un très mauvais truc. Pour... Je pense, moi, que oui, de plus en plus, je prends mon temps. Et le prendre son temps, c'est trouver le confort de l'âme, quoi. Enfin, je crois que c'est quelque chose de cet ordre-là. Moi, je crois de plus en plus au rythme du jeu. Ça me semble de plus en plus important.
Qu'est-ce que vous en dites, Grégory Gadebois?
Mais c'est vrai, c'est très. Ben, oui.
Comment est-ce qu'il vous a dirigé, Jacques Weber, sur la scène du Petit Saint-Martin?
Comme ça. En fait, ce qui est formidable pour nous, enfin, moi, je trouve pour moi, c'est d'avoir accès tout le travail sur le texte, tout le questionnement que Jacques Weber fait, normalement, qui fait lui quand il joue. Je pense qu'on a eu accès à ça, je ne sais pas comment dire, au travail sur le texte, à voir jusqu'où on peut aller avec un texte, les questions qu'on se pose. Alors après, il faut se poser les siennes à soi, il faut s'approprier le. Mais ça, c'était passionnant. On voit jamais ça, normalement. Les acteurs, on les voit sur scène. Et puis voilà, moi, j'avais vu Jacques sur scène. J'ai été le voir plusieurs fois. Il y a quelque chose de... On voudrait bien savoir comment on peut faire pour... On fait du théâtre ou on n'en fait pas, que ce soit un metteur en scène ou acteur. Il y a le rapport au texte, il est... Et souvent, les acteurs qui dirigent sont... C'est jamais désagréable parce qu'ils
vous connaissent mieux. Un acteur qui dirige un acteur connaît mieux le comédien.
Ben je crois.
Le metteur en scène.
C'est mon petit constat. Pas mieux, mais ils savent ce que c'est. Ils ont des problèmes de l'acteur aussi. Ils les connaissent. Donc il y a les. Ils donnent les solutions aussi. Enfin une partie des solutions.
Et par exemple, quels sont les problèmes qui peuvent s'être posés à vous dans la traversée que vous opérez sur le plateau de cette pièce de Marguerite Duras? La pièce, je le rappelle, raconte l'histoire de retrouvailles d'un couple qui s'est séparé et qui va se re-séparer parce que voilà, la vie en a décidé ainsi et ils en ont aussi décidé ainsi. Ils se retrouvent en soir, dans un hôtel.
Ils se retrouvent, ils parlent et ils font rien d'autre finalement. C'est ça que j'aime bien. Ils font rien d'autre que parler. Ils pourraient rester immobiles et juste parler. Il y a rien d'autre que la parole et ce qu'ils se disent. Et oui, les difficultés, c'était... Oh, c'est dur de les retrouver après, parce qu'elles sont pas encore complètement abolies. Les difficultés, il en reste plein. Je saurais pas dire. De trouver le chemin du texte. Trouver qu'est-ce que c'est. C'est toujours le même problème, finalement. C'est trouver qu'est-ce que c'est, j'avais une phrase de Jacques Lassalle. Un jour, j'étais au Français, j'écoutais comme ça ce qui se passait. Il avait dit, il faut arriver que le personnage, au moment où il rentre, ne puisse dire ou faire autre chose que ce qu'il dit et fait. Je sais pas pourquoi ça m'avait... Je m'étais dit, oui, c'est bien ça. Ça, je le prends. En fait, on pioche un peu partout. Et ça, c'est une phrase qui m'avait marqué.
Oui, on parlait de ça il y a peu de temps avec la comédienne Valérie Dréville, qui est passée dans une saison au théâtre, Grégory Gadebois. Et elle raconte que Christiane Loupa, qui l'avait dirigé, lui avait dit « Tu ne dois rentrer sur la scène du théâtre comme si tu allais à un rendez-vous. »
Ouais.
Et elle expliquait qu'effectivement, des phrases comme ça sont des viatiques pour les acteurs.
Ouais, il y a des phrases... Moi, j'en ai une... Ma phrase, moi, qui m'a apaisé, calmé, c'est Catherine Yégel, qui est ma marraine, qui l'a dit un jour, elle disait « On a... De toute façon, on a répété, on sait le texte, on sait ce qu'on doit jouer, on a beaucoup travaillé. Il faut accepter l'idée de rentrer en scène en se disant « On verra bien. » Et quand elle a dit ça, un jour, on était en classe, tout s'est apaisé, tout s'est calmé. J'étais content qu'elle ait dit ça, et j'étais content d'avoir le droit de le faire sans le... Les gens, parfois, ils apportent une réponse à une question qu'on se pose pas, mais qui existe en nous, et on l'a pas bien... Et tout d'un coup, paf, on a les deux en même temps. Ça, c'est une phrase à laquelle je pense souvent.
Qu'est-ce que vous devez aux femmes en dehors de la délicatesse, Grégory Gadebois, dans votre rapport au théâtre, dans votre parcours sur la scène du théâtre, peut-être même dans le fait que vous soyez devenu comédien de théâtre, et maintenant de cinéma, beaucoup, de plus en plus d'ailleurs?
Concrètement, je saurais pas dire précisément, mais je sais pas, peut-être je suis naïf, mais moi je crois que les hommes font toujours les choses en fonction d'une ou de plusieurs femmes, enfin en fonction de la femme en général, et puis les femmes font toujours... les choses en fonction de l'homme en général. Enfin, donc je saurais pas dire ce que je dois ou ce que je fais. Ben déjà, j'ai commencé le théâtre, c'est ma mère qui m'avait inscrit au cours. Déjà, c'est assez simple comme...
Vous le saviez? oui. qu'elle vous inscrivait au cours de théâtre. Oui, oui, vous étiez oui. volontaire, oui, oui. consentant.
Oui, j'allais. Mais au début, j'allais parce qu'elle avait payé, que ça coûtait cher, donc j'allais, mais ça me...
Puisqu'on parle des femmes, on a évoqué Clotilde M, avec qui vous avez joué à deux reprises, je crois, d'Anthony et Angèle.
D'Angèle et Tony, puis
d'Angèle et Tony, pardon.
Non, oui.
Et puis Les Revenants, la série.
Oui, Les Revenants. Et puis surtout, c'est une grande camarade, Clotilde. Donc c'est, moi, j'ai rencontré au conservatoire. C'est une grande amie.
Vous avez évoqué Catherine Hegel. Il y a quelqu'un dont on n'a pas parlé et qu'on va écouter. C'est Anne Castler.
Ah ouais.
Hansel and Gretel are alive and well, and they're living in Berlin.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
And they sit around at night now, drinking schnapps and gin, and she said, Hansel, you're really bringing me down.
J'ai fait un peu de théâtre parce que j'étais un petit peu tendue. Alors on m'a dit, tiens, peut-être tu pourrais faire un peu de théâtre pour te calmer, pour te détendre. Donc je l'ai vu au départ comme un jeu, même si au fond de moi j'en rêvais. Et puis très vite, j'ai compris que les études, c'est presque une fuite. Et puis j'ai vu aussi que j'aimais travailler des scènes, que je voulais tout le temps en passer, que j'aimais rencontrer les auteurs et que peut-être... Mais j'ai mis du temps avant d'oser m'imaginer actrice. Je suis rentrée au Français alors que j'avais pas fait le conservatoire, avec Antoine Vitesse qui m'a demandé de venir, grâce à une mise en scène d'André Stégère. Et donc je suis rentrée en pensant que j'allais partir. Je pensais que j'allais faire cette pièce, c'était déjà extraordinaire, et puis après j'allais partir. Ensuite il m'a demandé de devenir pensionnaire, alors là j'étais vraiment très heureuse, parce que je me suis dit pendant un an je vais travailler, je vais peut-être avoir d'autres rôles, mais un an ça m'allait très très bien. Et après moi j'étais très contente d'être pensionnaire, que ça se renouvelle tous les ans, ça m'allait très très bien. Le sociétariat m'a plutôt plus inquiétée que réjouie.
He said his story is a pile of debris.
Nous, on est plutôt très contents hein, que Anne Castler soit restée à la Comédie Française, Grégory Gadebois, où elle vous a mis en scène dans Trois Hommes dans un salon.
Trois Hommes dans un salon.
Petit spectacle qui était au Studio Théâtre, qui réunissait Brel, Brassens et Ferré. C'était quelque chose. Hein.
Et Les Naufragés aussi. J'ai plusieurs fois travaillé avec Anne et Algernon.
Et Algernon, des fleurs pour Algernon, oui.
Mais ça fait du bien d'entendre Clotilde et Anne. J'étais content, moi. Mmh. Oui, Anne, elle, trois fois, plusieurs fois. Et puis j'espère qu'on refera plein de choses ensemble avec Anne.
Pour ça, il faudrait que vous reveniez aux Français ou qu'elle en sorte.
Non, on a déjà pensé à des choses. On va s'arranger, on va trouver des... Oui, c'est vrai.
Elle ne vous a jamais manqué, la maison ?
Non.
Vous êtes partie, je le disais, en 2012. Aucun regret.
Non, j'ai pas de regret, je suis pas partie non plus fâchée ou, je suis partie parce que je sais pas le dire autrement que fallait que j'y aille, quoi. C'était pas, alors, Anne me manque, parfois. Mais on se voit toujours. Mais j'ai pas de, non, ça me manque pas, je suis content d'y retourner, de temps en temps, je passe, mais j'ai absolument pas de, je regrette pas d'être parti, je regrette pas d'y être rentré non plus.
Vous ne vous dites pas que peut-être sur le plateau Richelieu de la Comédie Française, vous attendez un rôle comme Richard II de Shakespeare, par exemple, et que ça, la Comédie Française peut l'offrir. Hein.
Je m'étais pas dit ça, non. Mmh. J'avais pas. Peut-être si j'avais réfléchi à ça, je serais pas parti. Mais non, si je serais parti quand
Bien
même,
sûr.
Parce que on peut faire Richard II. Au Théâtre Saint-Martin, par exemple.
Absolument.
Dans le petit Saint-Martin.
Mais je vous pose cette question parce qu'on parle de la délicatesse dans cette émission, grâce à vous, Grégory Gadebois, et peut-être que le revers de la délicatesse, c'est bien évidemment une forme de violence ou de sauvagerie qu'on a ou qu'on porte en soi. Et lorsqu'on vous voit sur la scène du petit Saint-Martin, les mains dans vos poches, vous les tenez résolument dans vos poches à certains moments, et vous dites souvent à cette femme qui est en face de vous que vous aimez et que vous allez quitter, que vous allez de nouveau quitter et qui va vous quitter, vous lui dites « j'aurais pu te tuer, je pourrais te tuer ». On se dit que c'est pas des mains qui sont au fond des poches, que ce sont des poings serrés. Mmh. Et on voit bien que la délicatesse de Grégory Gadebois, c'est aussi l'autre face d'une médaille derrière laquelle est inscrite le mot « violence » ou « sauvagerie ».
Oui. Moi, je sais par exemple que dans la vie, je suis très gentil, mais parce que j'estime que c'est aux gens de se... Je dis toujours de se réguler eux-mêmes. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de violence et de colère et de... Mais c'est comme si c'était un masque. Alors peut-être la délicatesse que vous me dites que j'ai, que je... c'est un masque pour cette espèce. En tout cas, comme élément de scène, de travail, c'est des opposés qui sont très agréables à... qui sont... Ben, je m'en rends compte en parlant avec vous, qui sont indissociables. S'il y a ça, il y a forcément à un moment une violence ou une chose qui sort, qui s'échappe, et peut-être que ça n'est juste que le moyen de la faire apparaître, la délicatesse.
Si j'osais, Grégory Gadebois, je vous demanderais volontiers de nous dire les premiers mots que vous dites sur la scène du théâtre, de la manière dont vous les dites, quand Anne-Marie arrive, puisque c'est le nom du personnage.
Je voulais vous dire, si vous avez besoin de moi, pour ces meubles qui sont au garde-meuble, je peux me charger de l'expédition, si je peux vous épargner cette corvée. C'est ça, c'est les mots.
La délicatesse, c'est aussi une voix. C'est aussi la douceur d'une voix.
Ça, je sais pas, je m'entends pas, j'aime pas m'entendre. Mais oui, la voix, de toute façon, on peut pas. Et c'est très important dans le travail, quoi, la voix, la manière dont on parle, ouais. Moi, je préfère souvent, alors c'est plus être de dos, loin, flou, dans un coin et qu'on m'entende, que l'inverse. Je trouve que si on écoute, on peut comprendre ce qui se passe. Si on regarde sans le son, on comprend rien. Je crois qu'on entend avant de voir, dans le ventre, avant de naître. C'est le son, je crois, c'est la première chose à laquelle on est, la première qu'on perçoit du monde extérieur. Les bruits, les sons, la musique.
Sur la délicatesse, il y a quelqu'un qui a extrêmement bien parlé, et pour cause, puisque il a beaucoup réfléchi à la question. Je voudrais qu'on l'écoute avant d'arriver à la fin de cette émission. Je voudrais vous faire réagir à ce qu'il dit. Grégory Gadebois, c'est Roland Barthes.
Si je devais chercher comment je projette le trait principal de mon caractère, je pense que je le situerais plutôt du côté d'une grande angoisse, j'allais dire d'une grande exigence, mais je traduis tout de suite exigence par angoisse, de délicatesse. Par exemple, l'angoisse d'être blessé développe continuellement chez moi, me semble-t-il, une sorte d'ensemble d'un ordre de valeurs qui est de l'ordre de la délicatesse et, par exemple, un certain rapport à la politesse. Pour moi, la politesse n'est pas du tout, bon, c'est un mot extrêmement démodé, j'en fais une valeur importante, pour moi, la politesse n'est pas du tout une valeur conformiste, ce n'est pas du tout ce qui est imposé par un code des bonnes manières. Mais la politesse, c'est effectivement une manière de se protéger. C'est une manière de se protéger sans blesser l'autre. C'est donc un état d'équilibre très subtil et très fin, qui est très difficile à défendre. Je ne suis pas du tout sûr de l'accomplir toujours, car un caractère poli est aussi, n'est-ce pas, par en dessous, ça va de soi, peut être un caractère violent. La violence peut très bien passer à travers la politesse.
Ça résonne en vous ce que dit Roland Barthes, Grégory Gadebois ?
Oui, oui, oui. Et d'ailleurs, vous me parlez de voix, je trouve qu'il a une voix, on pourrait écouter cet homme pendant des heures.
Oui.
Et oui, moi ça me parle beaucoup, ce rapport à la politesse. Ça paraît bête comme mot aujourd'hui, à une époque où on se lève plus dans le métro pour laisser sa place. Moi je trouve que c'est des choses qui sont très importantes pour moi, et c'est peut-être que c'est associé. J'aurais pas osé parler de la politesse et du respect de l'autre, mais pour moi, c'est ça la délicatesse. C'est faire attention à l'autre, aux gens, et ça, je trouve que c'est de plus en plus important et nécessaire dans le monde. Moi, en ce moment, j'ai l'impression de faire quelque chose de bien pour l'humanité quand je m'arrête au passage Clouté pour laisser passer quelqu'un, et ils en reviennent pas, les gens, qu'on s'arrête et qu'on les laisse passer. Il y a de moins en moins de place pour la politesse, pour le respect de l'autre, pour tout le monde. Et de plus en plus resserré sur lui, je trouve.
Est-ce que c'est pas un peu ça qui est en jeu dans ce spectacle de théâtre que vous interprétez avec Stéphane Caillard? Ce respect de l'autre, justement, parce qu'ils s'aiment tous deux, ils vont se quitter, ils pourraient se dire beaucoup de mal, se faire beaucoup de mal, mais ils font attention l'un à l'autre, Grégory Gadebois. Je trouve ça très frappant, moi, dans la représentation.
Alors, j'aime bien que vous disiez ça. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime beaucoup, parce que c'est quelque chose, je pense, qui est inconscient. Moi, j'ai toujours senti, je parle du personnage, qu'il y avait des espèces de bienveillance vers elle. Il n'y a pas de... Même s'ils peuvent se dire des choses un peu dures parfois, mais il y a quand même quelque chose de bienveillant. Et puis, ça finit comme ça. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y ait un sourire et qu'il lui dise « va ». Mais pas « va ». Voilà, qu'il y ait quelque chose de bizarrement de positif. Oui, j'aime bien ça. Je sais pas comment dire autrement.
Merci beaucoup de nous avoir rejoints au micro d'Une saison au théâtre. Je rappelle que la Musica deuxième se joue au Petit Saint-Martin à Paris jusqu'à la fin du mois de décembre. Vous avez encore du temps pour y aller, mais précipitez-vous parce que je pense que ça va être très vite pris d'assaut. La mise en scène est de Jacques Weber, le texte de Marguerite Duras et Grégory Gadebois a pour partenaire Stéphane Caillard. On ne se quitte pas tout de suite, Grégory Gadebois, puisque profitant de votre présence, nous allons voulu nous aventurer dans la région qui vous a vu naître, la Normandie. Et nous avons fait un saut à Dieppe, où Philippe Cognier dirige la scène nationale. Il nous explique au téléphone pourquoi son théâtre est une terre d'accueil.
Dieppe, scène nationale, c'est une terre d'accueil parce que nous avons ici une identité très forte. C'est une scène à la fois maritime et rurale et il s'avère que c'est une ville également très inspirante. Une ville qui travaille, c'est une ville qui vit, c'est une ville qui est active. Du coup, c'est une ville que les artistes aiment bien venir visiter, mais aiment bien s'y arrêter, aiment bien y travailler, aiment bien y rester en résidence. Nous avons ici environ 25 à 30 résidences par saison. Alors, une fois qu'on a fait ce constat, à l'évidence, ces présences artistiques presque en permanence, si je puis dire, facilitent le travail, évidemment, de nos équipes, facilitent le lien avec les populations, avec les habitants, pas seulement de Dieppe, mais de l'ensemble du territoire. Et on se rend compte qu'en fait, on aime bien accueillir, on aime bien recevoir, mais que celles et ceux que nous recevons aiment bien venir nous rendre visite.
Que serait la région dans laquelle vous êtes implanté à la tête de cette scène nationale, Philippe Cognier, sans la scène nationale?
Pour moi, c'est quasiment impossible à imaginer. Ceci dit, ce serait une zone où l'attractivité serait moindre, où peut-être que la vie serait moins intéressante peut-être pour les populations, peut-être qu'on aurait moins envie de venir s'y installer. Je sais qu'on rencontre, nous, assez régulièrement, parmi les nouveaux habitants, des personnes qui nous disent... Quand on étudie la cartographie, et quand on peut le faire, hein, d'un point de vue professionnel et d'un point de vue humain, évidemment, et qu'on se dit, tiens, on va peut-être s'installer là pour vivre et travailler avec nos enfants, eh bien, on étudie la possibilité qu'il puisse y avoir des écoles, des collèges, des lycées, mais aussi un lieu culturel important et un cinéma à Ressec. Alors, s'il n'était pas là, eh bien, peut-être que les populations iraient ailleurs ou se priveraient peut-être de rencontres, d'émotions. Ce serait fortement dommage. On participe, si je puis dire, politiquement aussi, au bon sens du terme, à une évolution territoriale, à l'avancée des idées dans nos communes, dans nos territoires, à s'ouvrir sur le monde. Et tout passe par la confiance et le lien.
C'était tout juste après la guerre, dans un petit bal qu'avait souffert. Sur une piste de misère, il y en avait deux à découvert. Parmi les gravats, ils dansaient dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour.
Vous pouvez, même vous devriez, podcaster une saison au théâtre sur le site de France Culture.
Leurs gestes émus. Alors quelle importance, le nom du bal perdu.
Inès Duperron, Youtou Diego, Hack Lopez, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent, bientôt 16h sur France Culture. C'est le moment de rejoindre Aurélie Luneau et son magazine de cause à effet. Excellent dimanche à vous tous.
Ils buvaient dans le même verre, toujours sans se quitter des yeux. Il faisait la même prière d'être toujours, toujours heureux. Parmi les gravats, il souriait dans ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant d'insouciance dans leurs gestes émus. Alors quelle importance le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'ils étaient heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien. Et c'était bien. Et puis quand l'accordéoniste s'est arrêté, ils sont partis. Le soir tombait dessus la piste, sur les gravats et sur ma vie. Il était redevenu tout triste, ce petit bal qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait, qui s'appelait. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Il y avait tant de lumière avec eux dans la rue. Alors la belle affaire, le nom du bal perdu. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est qu'on était heureux, les yeux au fond des yeux. Et c'était bien.